VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mercredi 8 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. En RD Congo, l'armée et la MONUSCO, la force onusienne, ont paraphé un accord pour des opérations conjointes contre les nombreux groupes armés. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed quitte le front et revient à Addis Abeba. Tournée du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian en Algérie après 2 mois de crise entre Paris et Alger. Une page se tourne en Allemagne. Olaf Scholz succède à Angela Merkel à la chancellerie et promet un nouveau départ. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. En République démocratique du Congo, l'armée et la MONUSCO, la force de l'ONU, se sont dotées d'un cadre pour mener des opérations conjointes contre les groupes armés dans l'est du pays. Le document, intitulé Directive des opérations conjointes, a été signé par le chef des FARDC, le général Célestin Mbala, et le commandant de la MONUSCO, Afonso Da Costa. Les détails avec Nathalie Barge.
Le général Afonso Da Costa a déclaré que désormais, toutes les forces de la MONUSCO sont en condition d'utiliser le mandat contenu dans le chapitre 7 des Nations Unies qui autorise l'usage de la force. Il a précisé que les casques bleus pourront utiliser l'artillerie et les hélicoptères d'attaque en soutien aux opérations conjointes FARDC-MONUSCO. Signant le document au siège de l'armée congolaise, le général Célestin Mbala a estimé que la directive des opérations conjointes était une occasion pour l'ensemble des contingents des casques bleus en RDC de s'engager pour l'application stricte de la force contre les groupes armés. Toutefois, la MONUSCO ne participera pas aux offensives conjointes des soldats congolais et ougandais, mais les trois forces partagent les renseignements. Dotée de 16 000 militaires et policiers, la MONUSCO figure parmi les opérations de paix les plus coûteuses de l'ONU, avec un budget annuel de plus d'$1 milliard. Malgré sa présence depuis plus de 20 ans dans le pays, les attaques de dizaines de groupes armés et milices continuent de faire des milliers de morts parmi les civils.
La mort de 6 personnes au début de novembre dans les geôles de la police à Brazzaville est due à des violences, affirme une ONG congolaise qui dit se baser sur des autopsies contredisant la version gouvernementale. Les autopsies ont été réalisées il y a quelques semaines sur 4 corps, d'après l'ONG Cercle d'Action pour le Développement. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, avait déjà fait état de son côté d'un drame lié probablement à la surpopulation carcérale. Les 7 casques bleus tués au Mali aujourd'hui par un engin explosif sont de nationalité togolaise. 3 autres sont grièvement blessés. Cette nouvelle attaque a fermement été condamnée par le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres appelle les autorités maliennes à tout faire pour identifier les coupables et les traduire en justice. L'assaut a eu lieu à Banzagara dans la région de Mopti, d'après la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali. Le chef de la MINUSMA, El Gassimouane, a lui aussi condamné vigoureusement cette attaque qualifiée de lâche, soulignant qu'elle pourrait constituer un crime de guerre. Procès du coup d'État présumé à Madagascar, l'ex-colonel de l'armée française Philippe François, l'un des 2 Français accusés d'avoir voulu renverser et assassiner le chef de l'État malgache, André Radzouel, a nié toute implication au 3e jour du procès à Antananarive aujourd'hui. « Je suis catholique, père de 6 enfants et comme vous, j'aime mon pays. Je n'ai jamais songé à attenter à la vie du président », a déclaré à la barre Philippe François, âgé de 54 ans. En Éthiopie, le chef du gouvernement, Abiy Ahmed, indique avoir regagné son bureau dans la capitale, Addis Abeba, aujourd'hui, après avoir passé 2 semaines sur la ligne de front. Il affirme avoir repris plusieurs villes aux rebelles tigréens. Le point avec John Lyndon.
Je retourne au bureau car j'ai terminé la première phase, a déclaré le premier ministre dans un communiqué, affirmant que les dernières semaines ont humilié l'ennemi et redressé l'Éthiopie. La lutte n'est pas encore terminée. Il y a des zones qui n'ont pas été libérées. Nous devons proposer une solution durable pour nous assurer que l'ennemi qui nous a mis à l'épreuve ne redevienne pas un danger pour l'Éthiopie, a-t-il ajouté. Les médias d'État ont annoncé le 24 novembre qu'Abiy Ahmed avait laissé la gestion des affaires courantes à son vice-premier ministre pour se rendre sur le champ de bataille et mener une contre-offensive face aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Les rebelles du TPLF qui ont démenti que le gouvernement a repris l'avantage militairement. Les rebelles du TPLF ont démenti que le gouvernement a repris l'avantage militairement, affirmant que l'armée éthiopienne n'a repris que des zones abandonnées après des retraits stratégiques opérés par les rebelles. Les communications sont toujours coupées dans les zones de combat et l'accès des journalistes est restreint, ce qui rend difficile toute vérification indépendante.
En Libye, la chambre haute du Parlement propose de reporter au mois de février prochain l'élection présidentielle prévue le 24 décembre en raison de désaccords persistants entre camps rivaux. Le processus politique tout entier risque d'être sapé et les résultats ne seraient pas acceptés en cas de tenue de la présidentielle à la date prévue, a déclaré aujourd'hui à Tripoli Omar Boucha, le premier vice-président du Haut Conseil d'État libyen. Le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a entamé aujourd'hui un périple en Algérie pour relancer la relation bilatérale après plus de 2 mois d'une crise d'une rare gravité alimentée par un conflit mémoriel entre Paris et Alger. Davantage avec Ginny Kapumbu-Villa.
Jean-Yves Le Drian a rencontré son homologue algérien Ramtane Lamara avant d'être reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. La teneur des discussions n'a pas été dévoilée. Il s'agit d'une visite de travail, d'évaluation et de relance des relations, a indiqué le Quai d'Orsay. Son déplacement a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Le président Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en octobre en accusant, d'après le journal Le Monde, le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance. D'après le quotidien, il s'était également interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. En signe de protestation, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris le 3 octobre et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français ralliant le Sahel. Le président français a depuis fait part de ses regrets. Il a donc chargé son ministre des Affaires étrangères d'une mission délicate, le retour à une normalité avec l'Algérie.
L'Afrique du Sud approuve une dose de rappel de vaccin anti-Covid Pfizer aux adultes dès l'âge de 18 ans dans un contexte d'inquiétude mondiale face au nouveau variant Omicron qui représente l'écrasante majorité des nouveaux cas dans le pays. Quant aux enfants gravement immunodéprimés âgés de 12 à 17 ans, ils peuvent recevoir une troisième dose au moins 28 jours après leur deuxième dose, indique l'autorité de santé sud-africaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
2 mois et demi après les législatives en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz est devenu le nouveau chancelier de la première économie européenne aujourd'hui, élu par les députés pour succéder à Angela Merkel. Olaf Scholz promet un nouveau départ. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
À 14h GMT, Angela Merkel a accueilli à la chancellerie son successeur. Elle l'a appelé à travailler pour le bien de l'Allemagne. Olaf Scholz lui a en retour rendu hommage et a promis un nouveau départ. Dans la matinée, M. Scholz, 63 ans, a prêté serment au Bundestag, promettant de consacrer ses forces au bien du peuple allemand. D'énormes défis attendent M. Scholz et son équipe, dont une situation sanitaire critique. Le chancelier a la grande responsabilité de lutter contre la flambée de COVID-19 dans le pays, a prévenu le président de la République fédérale. Le nouveau chancelier va aussi devoir composer avec une situation économique défavorable, plombée par une croissance plus faible qu'annoncée et le retour de l'inflation. Le président français Emmanuel Macron lui a promis d'écrire la suite ensemble. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, entend travailler avec lui pour une Europe forte. Monsieur Scholz va les rencontrer séparément vendredi pour son premier déplacement à l'étranger. Angela Merkel a donc quitté la chancellerie allemande après 16 ans à la tête du gouvernement. À 67 ans, elle se retire définitivement de la vie politique.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait état à son tour d'un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin auquel aucun ministre de son gouvernement ne prévoit de se rendre. Les États-Unis et l'Australie ont déjà indiqué en début de semaine une mesure similaire pour ces Jeux qui vont commencer le 4 février prochain. L'annonce de la décision américaine a provoqué la colère de Pékin, celle de l'Australie, le mépris, la diplomatie chinoise estimant, je cite, « tout le monde se fiche de savoir si Canberra envoie ou non des représentants officiels ». Fin de citation. Le ministre français délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité de 3 ans pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine. Son avocat, maître Patrick Maisonneuve, a aussitôt indiqué qu'il allait faire appel. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un condensé des nouvelles économiques, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg ce soir.
Au Cameroun, la mise en service de la mini-centrale hydroélectrique de Mbakaou Carrière dans la région de l'Adamawa devrait être finalement opérationnelle en 2022. Ecofin précise que ce second report du lancement de la centrale coûte cher à l'État qui doit continuer l'approvisionnement en gasoil des centrales thermiques de Tibatou et de Mbakaou. Le gouvernement sénégalais et l'Agence française de développement ont signé hier un protocole d'accord visant à renforcer la dynamique entrepreneuriale et le secteur privé au Sénégal. Selon Financial Afrique, l'AFD s'engage ainsi à soutenir les réformes de l'État sénégalais en mettant à disposition des outils d'assistance technique ainsi que des financements pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros sur 3 ans. Au Malawi, l'ex-ministre des Finances et l'ancien gouverneur de la Banque centrale ont été arrêtés pour avoir fourni des bilans truqués au FMI, a annoncé la police. Les deux hommes ont orchestré la falsification des déclarations de la dette brute et des réserves pour obtenir des facilités de crédit. Quand le FMI a découvert l'arnaque, les aides ont été suspendues au détriment des Malawites ordinaires, a ajouté la police.
Sans plus tarder, en tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est avec Bagassi Koura. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Suite de la Ligue des Champions en Europe à suivre entre autres ce soir. Juventus Turin contre Malmö. Le Bayern Munich affronte le FC Barcelone. Et Manchester United joue contre Young Boys. Hier, l'Atlético Madrid a arraché un billet presque inespéré pour les 8e de finale grâce à sa victoire 3-1 face à Porto. Le Paris Saint-Germain a battu le club Bruges avec 2 doublés signés Kylian Mbappé et Lionel Messi. Manchester City est assuré de la première place du groupe devant le PSG en dépit de sa défaite 2-1 à Leipzig. L'AC Milan a été renversé à domicile par Liverpool 2-1. Buteur sur pénalty contre le Sporting Portugal 4-2. L'avant-centre international ivoirien Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam a inscrit son 10e but cette saison en C1. Haller passe ainsi seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions avec donc 10 unités à l'issue de ses matchs de la 6e journée disputée ce mardi. Dans l'autre rencontre, Dortmund a étrié Besiktas pour l'honneur 5-0. Le Borussia Dortmund sera reversé en Ligue Europa. Le choc Real Inter a souri au Madrilène 2-0. Dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol se sont neutralisés 1-0. Voici donc la liste des clubs déjà qualifiés: Manchester City, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético Madrid, l'Ajax d'Amsterdam, le Sporting Lisbonne, le Real Madrid, Inter Milan, le Bayern Munich, Manchester United, Juventus et Chelsea.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité a pris fin hier. La lutte contre les groupes terroristes dans le Sahel a été un des points forts des débats. Les États-Unis ont été représentés par Tobin Bradley, le sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression. Joint à Dakar par Abdourahman Dia, Tobin Bradley tire pour nous les enseignements de ce forum.
Le Forum international de Dakar sur la sécurité a vraiment témoigné du désir des pays africains de prendre l'initiative de relever les défis urgents en matière de sécurité. Il témoigne des grands défis que nous avons et auxquels nous faisons face, et aussi des solutions que nous pouvons réaliser ensemble.
Comment est-ce que les États-Unis comptent-ils appuyer les efforts de lutte contre les groupes armés dans le Sahel? Est-ce une présence militaire accrue ou bien c'est dans d'autres domaines que les États-Unis comptent appuyer la région?
Combattre les groupes armés au Sahel est extrêmement complexe. Pourtant, nous savons que les solutions militaires seules ne fonctionnent pas et les États-Unis soutiennent divers programmes ciblant les causes profondes de l'extrémisme, notamment la nécessité pour les gouvernements partenaires de gagner et de conserver la confiance de leurs citoyens. Par exemple, mon bureau, le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression au département d'État, soutient des programmes de sécurité à travers le Sahel dans lequel les forces de l'ordre et un ensemble de services ont formé des partenaires pour améliorer la sécurité et instaurer la confiance. Ce que nous essayons vraiment de faire, c'est de consolider les institutions qui permettent de rendre les activités terroristes moins attrayantes au sens large.
Monsieur Bradley, comment est-ce que les États-Unis apprécient-ils le travail des instances comme le G5 Sahel? Est-ce que Washington privilégie la coopération directe avec les États ou à travers des instances comme le G5?
Je dirais que les organisations régionales jouent un rôle essentiel dans la diffusion des meilleures pratiques dans les opérations conjointes, le partage d'informations. Des efforts d'organisations comme le G5 Sahel ou d'autres organisations régionales comme la CDAO, tout comme les ONG et les réseaux d'organisations maritimes régionales, sont des initiatives puissantes sur les intérêts communs et l'engagement à lutter contre la menace croissante et évoluée dans la région. Cela dit, toute initiative régionale n'a que le reflet des forces de ces éléments constitutifs. Nous souhaitons donc également travailler avec les nations pour qu'elles puissent élever leurs institutions et leurs capacités aux normes internationales afin qu'elles puissent être des partenaires plus efficaces lorsqu'elles se mettent ensemble dans ces organisations régionales.
C'était Tobin Bradley, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau américain des Affaires internationales de stupéfiants et de répression.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, l'armée, la MONUSCO, la force de l'ONU, se sont dotées d'un cadre pour mener des opérations conjointes contre la centaine de groupes armés sur le territoire congolais. Désormais, avec le nouveau manuel de procédure, la MONUSCO va passer à l'action, d'après le général Afonso da Costa, commandant en chef de la force onusienne. Edi Sango a joint à Kinshasa l'un des membres de la commission de suivi et d'évaluation de la nationale, le député Gracien de Saint-Nicolas Iratian.
Depuis un certain temps, les forces de la MONUSCO et les forces de la République démocratique du Congo ne pouvaient plus faire les opérations ensemble. Donc, il y avait des divergences sur les plans d'action, d'attaque, donc des offensives. Et donc, ce qui est nouveau est que maintenant, ils vont avoir un plan commun pour pouvoir combattre ensemble au niveau des groupes armés qui sont en train de tuer la population à l'est. Mais aussi, il faut affirmer que la MONUSCO avait posé des conditions, qu'elle ne pouvait pas travailler avec des officiers qui sont impliqués dans les crimes, selon les différents rapports internationaux. Et donc, maintenant, c'est vrai que cette collaboration va se passer avec des officiers dont on ne reproche pas des criminalités sur terrain. Donc, c'est ça les défis nouveaux. Les premiers, c'est le fait d'avoir un plan commun pour pouvoir combattre ensemble, attaquer les groupes armés. Mais de deux, avoir des officiers qui ont les mêmes propres, qui ne sont pas impliqués dans les crimes contre l'humanité ou les crimes de masse dans les différentes zones sous opération.
Le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Célestin Mbala, a demandé à la MONUSCO d'appliquer le chapitre 7. J'ai appelé tout à l'heure la MONUSCO. Le porte-parole m'a dit que la MONUSCO a toujours appliqué le chapitre 7. Ça veut dire quoi dans tout cela, vous qui êtes dans la commission des suivis? Est-ce que la MONUSCO va maintenant faire la guerre avec les rebelles et les milices sur le sol congolais?
Évidemment, la MONUSCO a toujours été sous chapitre 7, compte tenu de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Mais c'est vrai que ce chapitre 7 n'a pas toujours été utilisé ou appliqué comme il faut. Alors, évidemment, ce sont les brigades d'intervention qui s'occupaient beaucoup à pouvoir appliquer ce chapitre 7. Et vous savez que depuis un certain temps, depuis que la position des FRDC vers la région de Nord Kivu, là où il y a les triangles de la mort, l'axe Mbaou, Kamango, a été attaqué. Et finalement, cette brigade d'intervention a fait presque marche arrière et n'a pas continué à travailler comme il faut avec ce chapitre 7. Du coup, on n'a pas vu les forces des Nations Unies pouvoir s'impliquer activement par la force. Et après, il y a eu alors des observations selon lesquelles les Nations Unies reprochaient qu'il y avait des officiers qui avaient des mains sales, qui auraient participé à des crimes au niveau des différents fronts et que les Nations Unies ne se sentaient pas capables de pouvoir travailler avec ce genre de personnes. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y avait aussi des problèmes. Et voilà un peu que peut-être que maintenant, ils vont revenir pour appliquer réellement ce chapitre 7. Parce qu'on a toujours déploré que ce chapitre 7 ne soit pas appliqué comme il faut.
Le député Gratien de Saint-Nicolas Iratian, membre de la commission de suivi et d'évaluation du Parlement congolais.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine, des dizaines de personnes soupçonnées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont toujours en liberté, d'après Amnesty International. L'ONG regrette que sur les 25 mandats d'arrêt émis, un seul a été exécuté, aboutissant à l'arrestation du ministre Hassan Abouba Ali, qui a été libéré quelques jours après. Par la suite, il a même reçu du président Faustin Archange Touadéra la plus haute distinction de l'État. Claire Morin-Gibourg a joint à Bangui Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Je sais que la Cour pénale spéciale travaille depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. À un moment donné, on a déploré qu'il n'y ait pas eu de procès, mais la Cour pénale spéciale a décerné des mandats d'arrêt ou des mandats d'amener. Mais je ne peux pas vous confirmer le nombre que vous me donnez. Je ne sais pas si c'est bien 25, si c'est plus, mais jusqu'à présent, ces mandats n'étaient pas exécutés. Nous nous sommes félicités le 19 novembre dernier, lorsque une personne soupçonnée à la personne de Hassan Bouba a été interpellée. Et à cette occasion, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme a annoncé qu'il s'agit d'une preuve que la justice pénale était effectivement en mouvement et qu'après cette arrestation, d'autres groupes de personnes mises en cause seraient recherchées et appréhendées. Donc ça, c'était un geste très fort.
Alors, il a été relâché?
Il a été relâché, mais par des circonstances qui n'étaient pas celles par les procédures judiciaires. Vous savez que lorsque c'est la justice qui envoie une personne en détention, c'est la justice qui, par le fonctionnement de ces mécanismes, doit sortir la personne qui était détenue. Mais jusqu'à présent, le débat ici en République centrafricaine fait que des opinions sont divisées sur la manière par laquelle cette personne est sortie de prison. Mais la Cour pénale spéciale continue ses investigations par rapport à ces dossiers et par rapport à d'autres dossiers qui sont en cours.
Que faudrait-il mettre en place alors pour rendre cette Cour pénale spéciale plus efficace selon vous?
Alors, ce qu'il faut mettre en place, c'est d'abord, un, lui donner la possibilité et l'efficacité de faire exécuter ses mandats. C'est-à-dire que si la Cour pénale spéciale fait son travail, il faut que lorsqu'elle a réuni des charges de culpabilité contre une personne déterminée et qu'elle discerne effectivement des mandats, que ce soit mandat d'arrêt, que ce soit mandat d'amener, etc., que ce soit mandat de dépôt, comme cela était en train de se faire en ce qui concerne la personne qui a été libérée, il faudrait qu'on lui donne la possibilité d'exécuter son mandat, de laisser cette haute juridiction travailler en toute quiétude. Il est aussi demandé aux membres de la Cour pénale spéciale de se mettre résolument au travail pour que les dossiers en leur possession ne fassent pas l'objet de trop de confidentialité sans intérêt. Jusqu'à présent, la population centrafricaine était agacée par le fait qu'on leur annonce des enquêtes, mais on ne cite pas expressément les personnes qui sont recherchées et la nature des fautes qu'on leur reproche.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, à Bangui.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et à présent, un peu de rythme, si vous le permettez. La rumba, une musique très importante dans la vie congolaise, une passion partagée par tous les Congolais. La rumba est décrite comme un élément fédérateur de cohésion sociale, mais aussi du passé et du présent. La République démocratique du Congo et sa voisine, la République du Congo, s'unissent pour demander à l'UNESCO d'admettre la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les détails avec Dili Dziko.
La rumba fait danser les Congolais à Kinshasa et Brazzaville sur des rythmes tantôt lents, tantôt bouillonnants. Ici, cette musique est un véritable trésor national et dès la semaine prochaine, l'UNESCO dira si la rumba congolaise, comme la cubaine il y a 5 ans, est admise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Écoutons le professeur André Yoka, directeur de l'Institut National des Arts à Kinshasa et également président de la commission mixte pour la promotion de la rumba congolaise en vue de son inscription au patrimoine de l'humanité.
C'est une passion partagée par tous les Congolais, que ce soit du point de vue profane d'ailleurs, que du point de vue religieux aujourd'hui. Et elle est devenue holistique, elle est devenue tentaculaire de tous les domaines de la vie nationale.
Le professeur André Yoka ajoute que la rumba est un élément fédérateur de cohésion sociale, mais aussi du passé et du présent. Adulée des deux côtés du fleuve Congo, ses origines se trouvent dans l'ancien royaume Congo, où l'on pratiquait une danse appelée Nkumba, qui signifie nombril, parce qu'elle faisait danser hommes et femmes, nombril contre nombril. Avec la traite négrière, les Africains ont introduit cette musique dans les Amériques. Au nord, elle s'est muée en jazz et au sud, en d'autres déclinaisons de la rumba. Gabriel Kelly, chercheur en histoire de la musique, explique que la rumba a énormément voyagé.
Les esclaves dans les bateaux jouaient de la musique du jazz. Et la rumba, s'il faut voir la rumba, nous devons aussi voir du côté de Brésil, Cuba, l'Amérique latine. C'est une symbiose que plus nos musiciens d'ici ont pu exploiter aussi.
en attendant de savoir si la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité, les amoureux du genre affirment que la relève est assurée par de nouveaux artistes, dignes héritiers de cette musique.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.